Que dit la loi congolaise à propos du testament? Voilà, les testaments, quelqu'un, un auditeur nous a dit tout à l'heure que lorsque vous rédigez un testament, certains pensent que vous faites appel à la mort, hein. Vous risquez de partir un peu plus tôt. Voilà, est-ce que quand on rédige un testament, on fait appel à la mort? Eh bien, notre invité nous le dira tout à l'heure. Et que dit la loi congolaise à propos du testament? Voilà, c'est tout. Nous allons tenter d'avoir des réponses à toutes ces questions avec notre invité, Maître Charles Mouchizi. Il est avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Et je disais tout à l'heure que de nombreuses personnes décèdent sans laisser des testaments alors qu'elles avaient acquis des biens pendant leur vie. Et cela plonge souvent les héritiers dans des conflits interminables. Les membres de la famille s'entre-déchirent pour le partage des biens du défunt. Et alors, que dit la loi congolaise à ces sujets? Parce que d'après même nos sources, que bon nombre des conflits au niveau des cours et tribunaux sont des conflits des successions. Qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour résoudre ce problème? Maître Charles Mouchizi, bonjour.
Bonjour.
Alors, que dit la loi à propos du testament? D'abord, c'est quoi le testament?
Le législateur, dans l'article 766 du Code de la famille, dit que le testament est un acte personnel du décuius par lequel il dispose, pour le temps où il ne sera plus en vie, de son patrimoine. Il le répartit, le détermine et détermine ses héritiers et fixe en même temps les dispositions tutélaires, funéraires ou de manière volontaire. Il fixe en fait le contenu de son patrimoine, ceux à qui il le laisse et ceux à qui il ne le laisse pas, évidemment, parce qu'il peut déshériter un certain nombre de membres de sa famille ou un certain nombre d'héritiers légalement reconnus.
Voilà, donc c'est un document que rédige...
En principe, le testament doit être écrit. Et la loi dit, justement...
Sous quelle forme?
La loi, pour la question de la forme, dans l'alinéa 2 de l'article 766 du Code de la famille, dit que le testament peut être authentique, peut être holographique ou peut être simplement oral. Mais l'oral doit être témoigné par au moins deux personnes adultes qui ont été en présence de la personne qui a est disposé ainsi de ses biens.
Mais le mieux, c'est de rédiger.
Oui, l'acte authentique et l'acte holographe sont des preuves par excellence de l'existence du testament. Mmh. Il est authentique lorsqu'il est présenté, il est rédigé devant un notaire ou devant l'officier de l'état civil. Il est holographe lorsqu'il est simplement écrit et signé de la simple main du testataire, sans besoin qu'il soit entériné par le notaire ou l'officier de l'état civil.
Alors, à quel moment rédiger ces documents?
À tout moment, d'abord, essentiellement lorsque vous sentez que votre mort est prochaine, que vous voulez disposer pour l'avenir des biens qui vous appartiennent. Mais vous pouvez le faire à tout moment parce que, en fait, toute personne peut rédiger son testament à tout moment et le faire garder soit chez le notaire, soit le faire constater auprès de l'officier de l'état civil. Mais il peut le mettre à jour, toute personne peut mettre à jour régulièrement son testament sans besoin que ils sentent nécessairement sa mort prochaine. Mais lorsque, et la loi précise justement sur ce fait que lorsque il y a existence de plusieurs testaments, celui qui fait foi, c'est celui qui a été rédigé le tout dernier avant la mort du testataire.
Mmh. Et là, est-ce que la loi a déterminé le moment de le faire, non?
Non, il n'y a pas de moment particulier. Vous pouvez rédiger votre testament aujourd'hui si vous voulez.
Voilà, parce que un auditeur qui a posé la question par rapport à la mort subite. On peut ne pas penser à la mort maintenant. Elle vous prend de manière soudaine.
C'est pour cela justement que le législateur n'oblige pas que nécessairement le testament soit rédigé à l'article de la mort. Toute personne peut rédiger son testament et prévenir justement bien avant sa mort comment seront gérés, répartis ses biens quand il ne sera plus. Et donc la question de la mort devient plutôt une sorte de condition, non même pas de forme ni de fond, mais personnelle. On se dit, je rédigerai quand, je sentirai que mes forces commencent à m'équiter. Mais on peut rédiger, du point de vue de la loi, on peut rédiger le testament à tout moment de sa vie.
À tout moment de sa vie. Alors, quelles sont les autres dispositions légales par rapport au testament?
Oui, par rapport au testament, le législateur est très éloquent. D'abord, du point de vue de sa forme, il ne peut exister que trois formes de testament, comme nous l'avons dit. Il ne peut être que authentique, holographe ou oral. En plus, il ne peut pas entamer, par exemple, la succession, la réserve successorale, qui est en fait qui est constituée de deux tiers de la masse successorale dans l'ensemble et qui doit appartenir aux héritiers de la première catégorie, ça veut dire les enfants reconnus nés dans le mariage et même ceux nés hors mariage, mais reconnus du vivant du testataire.
Voilà, donc il doit déjà dans ce document dire je laisse ma parcelle par exemple délimitée à tel enfant ou à tel autre et l'autre n'aura rien parce qu'il était il m'a déçu de mon vivant et il a fait des choses qui m'ont pas plu.
Ça fait deux choses. En principe, lorsque le testataire n'avait qu'une seule maison, cette maison appartient en priorité aux héritiers de première catégorie, ça veut dire les enfants. Évidemment, cela c'est sans préjudice du droit d'usufruit du conjoint survivant, parce que le conjoint survivant a tous les droits légaux d'user et même de bénéficier des fruits de l'unique maison qui a été laissée par son conjoint décédé. Mmh. Et la deuxième chose que vous dites en même temps, c'est que il y a ce qu'on droit on appelle la réserve successorale qui ne peut en aucun cas être entamée parce que elle constitue une part réservée aux héritiers de première catégorie. Et donc elle est constituée de deux tiers de l'ensemble de la masse successorale.
La réserve successorale.
Voilà, c'est ça, c'est le terme de la loi, les deux tiers. Mmh. Alors, pour ce qui est de personnes qui peuvent être qui peuvent être exclues de la succession, la loi est claire. En fait, il ne s'agit pas de le dire comme ça de manière libre, tel ne viendra pas à la succession. Il faut bien qu'il ait été déshérité conformément à la loi. Il faut par exemple qu'il ait été à la cause de la mort du testataire. En ce moment-là, il devient ce qu'on appelle en droit de la famille, il est indigne, ou alors qu'il a été exclu du seul fait qu'il a porté atteinte à la masse successorale à laquelle il devait venir. Par exemple, on voit des enfants qui vendent illégalement la maison de leur père. Mmh. En ce moment-là, si cette maison revient dans la succession du fait de l'annulation de la vente, par exemple, par le juge, il ne pourra pas être bénéficiaire de la succession. Ça, c'est du point de vue de la loi.
Voilà, ça c'est du point de vue de la loi. Alors, un auditeur a posé la question tout à l'heure, avant votre arrivée, de savoir qui doit rédiger un testament, le riche ou le pauvre, parce qu'il suppose que le pauvre n'a rien, alors il s'est dit, à quoi bon rédiger ce document ?
En fait, la loi dit que le patrimoine d'un individu est constitué de ses biens actuels et de ses biens futurs. Si un testataire a des créances sur des personnes, eh bien, il peut les loger dans le testament. Ça veut dire des dettes qu'il doit recouvrer sur des personnes. Ça fait partie de son patrimoine.
Mmh. Alors, il doit les mentionner que telle personne autant.
Oui, et
l'autre me doit autant.
Voilà, ça constitue la masse successorale. Ça constitue son patrimoine. Mmh. Même si cet argent n'est pas encore payé, ses ayants cause vont venir justement. Ses ayants droit vont venir justement. À la succession, à part proportionnellement au principe établi par la loi, pour justement bénéficier de ces créances le jour qu'elles seront payées.
Et si la personne qui avait pris l'argent ne le reconnaît plus.
Là, nous tombons dans le domaine de la preuve, de la preuve. Et il faut bien qu'il y ait une traçabilité des éléments de preuve pouvant attester de manière claire que cette créance existe et que la personne citée comme débiteur existe aussi. Et donc, c'est pas à propos maintenant à la question de preuve, mais voilà, tout tourne autour de comment justement le testataire lui-même a établi la preuve de l'existence de cette créance.
Bien, vous avez dit tout à l'heure qu'il existe trois formes de testament. Il y a les testaments
authentiques, holographe et oral.
Alors, où se trouve la différence entre les trois?
La différence entre les trois, c'est que un testament n'est authentique que lorsque il est élaboré devant le notaire, soit devant l'officier de l'état civil. Lorsqu'il est élaboré devant le notaire, il est scellé par des mentions qui constatent justement qu'il a été fait devant une autorité établie à ce titre. Mais lorsqu'il est élaboré devant l'officier de l'état civil, en ce moment-là, l'officier de l'état civil inscrit dans un registre spécial des testaments qu'il a été effectivement établi ce testament devant lui, et il fait mention donc avec des dates précises. Lorsqu'il est oral, il faut qu'il ait été fait devant deux personnes adultes qui puissent témoigner que effectivement ce testament a été fait devant ces deux personnes. Et en ce moment-là, en fait, la loi diminue le pouvoir du testataire, parce que lorsque c'est oral, il faut pas que un certain nombre de legs dépasse un certain nombre de valeurs de biens. Donc en ce moment-là, les valeurs des legs est vraiment revu à la baisse, contrairement à lorsqu'il est écrit, où il peut disposer de manière un peu plus libre, même si évidemment, nous y revenons, il ne peut pas porter atteinte à la masse successorale.
Bien, désolé, chers auditeurs, nous ne pouvons pas prendre vos appels aujourd'hui. Il y a des petits soucis au niveau des téléphones, de nos lignes téléphoniques. Désolé. On espère que avant la fin de la journée, ce problème va se résoudre. Alors, il faut rédiger ce testament en combien de copies?
La loi ne dit pas combien de copies faut le faire. En principe, c'est une seule copie, parce que c'est une seule copie qui vaut l'original. Mais maintenant, est-ce que il faut photocopier pour que vous en gardiez la traçabilité? Je crois que c'est pas important, parce que le testataire lui-même peut revenir sur les dispositions de son testament. Et donc, lorsqu'il les rédige, il peut le garder dans un coffre-fort, mais s'en passer et rédiger un autre. De toute évidence, comme le dit la loi, le testament qui aura la valeur juridique, c'est celui qui sera rédigé le tout dernier. Ça veut dire, on va regarder tous les testaments qui ont été rédigés, on va les analyser par rapport à leur date, et celui qui vaudra, du point de vue juridique, ce sera celui qui a été rédigé le dernier.
Voilà, c'est celui qui a été rédigé les derniers. Et lorsque vous allez le faire, par exemple, auprès du notaire, est-ce qu'il y a des frais à payer, par exemple?
Oui, nécessairement, il y a des frais à payer à l'office du notaire, ça va de soi, parce que c'est un service qui est demandé, c'est un service qui est rendu par la République. Et donc, évidemment, il s'agit pas de beaucoup d'argent, c'est probablement 3 ou 4 dollars, parce que aujourd'hui, pour notarier, c'est, lorsque vous avez un document, c'est 2 dollars pour la première page et 1 dollar pour tout le reste de page. Bon, vous n'allez pas faire un testament de 50 pages. En ce moment-là, ça vous vaudra au moins 51 dollars. Voilà.
Oui. Ça peut prendre combien de pages au maximum?
La loi ne le dit pas. Une seule page peut suffire. Ça dépend de l'ampleur des valeurs des biens que vous disposez. Ça dépend aussi du nombre de bénéficiaires qui viendront à la succession ou au partage des biens. Si vous avez 25 enfants, j'imagine bien que vous allez quand même les mettre sur 3 ou 4 pages. Si en plus de ça, vous voulez faire des legs particuliers, c'est ce qu'on appelle des legs universels ou à titre universel, vous pouvez ajouter d'autres personnes que vous voulez. Mais évidemment, tout en observant la masse qui doit revenir de plein droit aux héritiers de première catégorie.
Bien, voilà, donc c'est comme ça qu'il faut rédiger son testament. Alors la question, une autre question, Maître Charles, pourquoi un bon nombre des Congolais, par exemple, des Africains n'ont pas cette culture de rédiger un testament pendant qu'ils sont encore en vie?
Le plus souvent, en fait, c'est par ignorance. Les gens ne savent pas que c'est très bien de rédiger un testament, parce que après eux, ils ne savent pas qu'ils laissent beaucoup de conflits, notamment pour lorsqu'il y a des enfants nés de lits différents, ou lorsque il y a des épouses, enfin une épouse et des maîtresses qui croient avoir quelques droits sur les biens laissés par leur concubin décédé.
Oui.
Et donc, je crois qu'essentiellement, il s'agit de l'ignorance. Et donc, il faut sensibiliser le plus largement encore la population sur l'importance de régler la question du patrimoine laissé lorsqu'on est à l'article de la mort ou même lorsque on estime qu'on a déjà suffisamment de biens et que ces biens peuvent être peut-être éventuellement source de conflits entre successeurs.
Et quand on rédige ce testament, est-ce qu'on doit informer, par exemple, sa femme, ses enfants, que voilà, j'ai aujourd'hui rédigé le testament qui se trouve auprès du notaire et vous allez le découvrir après ma mort. Est-ce qu'on peut faire cette démarche-là?
Le testament est, de par sa nature, un acte personnel qui relève de la volonté, de la discrétion, de la souveraineté individuelle. Oui, on peut décider d'en parler à ses proches, à son épouse ou même aux enfants. Ça dépend de la nature de la famille que vous avez, du niveau de confiance que vous avez en chacune des personnes à qui vous allez parler. Ça dépend de la nature des relations que vous avez avec votre épouse. Parce que il y en a qui rédigent leur testament, justement parce que se prévalant d'une situation de conflit qui ne voudraient pas voir se perdurer après leur mort, notamment sur les biens, ils rédigent, mais ils confient à quelqu'un à qui ils ont confiance pour que à sa mort, après sa mort, le partage du patrimoine soit géré de manière moins conflictuelle.
Là, c'est surtout pour les parents polygames.
Il peut ne pas être polygame. On a des familles monogamiques qui sont à plein de conflits. Donc c'est au cas par cas. Donc il n'y a pas une situation particulière qui soit favorable ou défavorable a priori. Donc lorsque quelqu'un rédige son testament, il doit simplement savoir qu'il pose là un acte citoyen qui prévient les conflits, prévient justement que les conflits ne surviennent pas entre succédants, notamment lorsqu'il a beaucoup de biens.
Parce qu'il y a des gens aussi qui les sentent, hein. Déjà dès leur vivant, la famille est déchirée à cause des biens, et il peut sentir qu'après moi ce sera terrible.
Oui, et ça c'est très courant. On voit la belle famille qui vient chasser à la veuve, on voit les enfants de l'oncle qui s'attaquent à leur cousin. Il faut régler ces choses en se basant sur le principe de l'intérêt des enfants, mais aussi de la sécurité qui doit être attribuée, accordée, garantie au conjoint survivant. Ça peut être la femme comme l'homme. Parce que dans des régimes où on a la communauté universelle, on peut avoir aussi des problèmes dans le conjoint, avec le conjoint. On peut avoir plus particulièrement des problèmes lorsque on est dans un régime de la communauté est réduite aux acquis. Et donc, en ce moment-là, les biens acquis par la femme avant le mariage lui appartiennent, le bien acquis par l'homme avant le mariage lui appartient, et il ne gère que la petite masse successorale qui peut être beaucoup plus pauvre que ce que l'un et l'autre a amassé avant. On peut bien s'imaginer que vous, journaliste, vous épousiez la veuve d'un chef de l'État. Un chef de l'État décédé, mais vous l'apprenez en ce moment-là, et elle est de loin plus riche que vous. Si vous êtes dans un régime de la communauté réduite aux acquis, en ce moment-là, vous n'aurez qu'une toute petite masse successorale qui restera. Et donc, il faut garantir la sécurité, toute la sécurité, au conjoint survivant, notamment lorsque ce conjoint survivant est en position de plus de richesse que le conjoint décédé.
Mais on a souvent l'impression qu'après la mort du propriétaire du bien, du parent, qu'il y ait testament ou pas, certaines personnes ne tiennent pas compte de cela.
En ce moment-là, ça devient le domaine de la loi qui est violé. Et les ayants droit dans la succession sont en droit justement de se prévaloir de leurs droits violés devant la justice. Parce que l'exécution du testament doit être de rigueur. Il s'agit de la volonté, de la dernière volonté, d'un acte de dernière volonté, comme dit la loi, du testataire, et qui doit être respecté, évidemment dans la mesure où cet acte lui-même respecte la loi.
Par exemple, si la personne décède et qu'elle n'avait dit à personne que j'avais rédigé un testament qui se trouve chez les notaires et que les enfants ne sont pas au courant, à ce moment-là, quelle sera la démarche? Faut-il aller directement voir, vérifier auprès du notaire ou dans son bureau si papa avait laissé ou pas un testament?
En principe, les successeurs doivent avoir la diligence de vérifier s'il n'y a pas eu ces testaments. Ils doivent vérifier auprès de l'État, de l'officier de l'État civil. Ils doivent vérifier auprès du notaire et si leur
ou auprès
papa,
de l'avocat de papa.
Oui, si papa avait de bons amis avec qui il était toujours, on peut leur poser la question. En fait, celui qui se prévaut d'un avantage du point de vue du testament doit le prouver. Oui, mais je ne crois pas en fait qu'une personne puisse rédiger son testament et le cacher, sinon il n'aura résolu aucun problème. Si le testament est découvert 10 ans après la mort, alors que les biens ont été déjà partagés sur base des principes arrêtés par le conseil de la famille, bon, je ne vois pas comment il va être opérant. Donc c'est pas rationnel que de cacher l'acte, son acte de dernière volonté et de ne pas le révéler.
Il faut le révéler soit à dire à un de ses amis.
Oui, absolument, parce que sinon personne n'en connaît l'existence et on ne l'évoquera pas, donc parce qu'on ne le connaît pas, il est présumé inexistant s'il n'est pas connu.
Voilà, donc rédigez votre testament et prévenez quand même quelqu'un de confiance, un proche.
Il en va de soi, mais s'il faut apporter un conseil à ce niveau, c'est que ce testament soit authentifié ou alors qu'il soit observé, constaté par l'officier de l'État civil. C'est très important parce que c'est des mécanismes qui sécurisent, qui garantissent quand même un certain nombre de choses et qui protègent particulièrement les droits du successeur. Parce que s'il reste holographe, par exemple, s'il reste oral plutôt, c'est difficile, même s'il y a deux personnes adultes devant lesquelles il a été fait, parce que ces deux personnes peuvent ne pas rapporter fidèlement nécessairement l'acte de dernière volonté qui a été dit.
Bien, Maître Charles Mouchizi, merci. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete. Désolé, aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes avec nos lignes téléphoniques. On n'a pas pu avoir les questions des auditeurs. Désolé, je crois que la prochaine fois ou avant la fin de cette émission, ça va marcher.
La technologie a ses caprices.
Ah ben voilà. Maître Charles, merci et bonne journée et bon début de semaine.
Merci à vous autant.